Fun for you avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans le 30e épisode du podcast Fun for you. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast pour Fun for you, votre rendez-vous santé, bien-être et vie intime. Fun Radio. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Lérim qui est avec moi en studio. Salut Lérim.
Bonjour, bonjour à tous.
Sexologue et thérapeute de couple, on va s'intéresser aujourd'hui à un sujet qui est quand même assez présent dans la société, c'est l'infidélité. Et cette question, comment finalement c'est possible de tromper dans un couple alors que finalement on s'aime quand même?
On imagine souvent que l'infidélité arrive uniquement dans les couples malheureux. Pourtant, dans les cabinets de thérapie de couple, on rencontre souvent des personnes qui disent encore aimer profondément leur partenaire et qui ont malgré tout une aventure extra-conjugale. Alors, comment est-ce que c'est possible? Cette question est importante parce que souvent notre vision de l'infidélité est très simplifiée. Un coupable, une victime. Or, la réalité est souvent beaucoup plus complexe que cette binarité.
Qu'est-ce qu'on appelle finalement vraiment l'infidélité? À partir de quel moment est-ce qu'on est infidèle? Parce que pour certaines personnes, quelques messages, c'est déjà de l'infidélité. Pour quelques personnes, dire « Oh, cette personne que je vois à la télé est belle », ça frôle parfois même l'infidélité. On a tous un peu notre définition de l'infidélité qui nous est un peu propre finalement.
Oui, quand on regarde un peu la recherche scientifique sur les relations, l'infidélité est généralement définie comme une relation émotionnelle, romantique ou sexuelle. Donc un des trois, avec une autre personne, une relation secrète qui viole l'accord implicite du couple. Donc ce n'est pas seulement le sexe qui pose problème, parce que souvent on a cette idée que c'est le sexe qui définit l'infidélité. Non, c'est surtout le secret, la rupture de confiance, la violation de l'engagement. Et effectivement, comme tu le disais très justement, Simon, il y a pour certaines personnes, la frontière est différente dans un couple ou dans un autre. Effectivement, juste un message à quelqu'un, c'est déjà une infidélité. Dans un bar, regarder, sourire, faire un petit flirt avec quelqu'un, c'est de l'infidélité. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un couple et elle trouvait que déjà liker des femmes sur, donc même des inconnues, donc c'est pas des personnes qu'ils connaissent, des filles sur Instagram qui font du sport, etc. Le fait de liker ce genre de femmes, pour elle, c'était déjà de l'infidélité. Donc ça montre bien que la définition varie vraiment d'un couple à un autre, et c'est bien aussi de définir en amont où est la frontière. C'est souvent très implicite, mais je trouve que c'est pas mal quand même de le définir en amont, de où est la frontière de la fidélité, de l'infidélité.
Alors, si je me trompe pas, l'amour, on peut le définir en trois dimensions. C'est quoi ces dimensions?
Alors, c'est vrai que le psychologue Robert Sternberg propose une théorie très simple. L'amour reposerait, selon lui, sur trois dimensions. L'intimité, la passion, l'engagement. Alors, l'intimité, c'est tout ce qui est confiance, proximité émotionnelle, complicité. Passion, c'est désir, attirance, excitation, éventuellement sexualité. Et l'engagement, c'est la décision de rester ensemble, le projet commun, la stabilité. Dans une relation durable, ces trois dimensions ne restent pas toujours équilibrées. Ça peut vraiment, parfois on est plus dans la passion, souvent au début d'ailleurs, on est plus dans la passion, parfois on est plus dans l'engagement, parfois on est plus dans l'intimité. Quand on vieillit et que nos enfants quittent la maison, la dynamique peut aussi changer, on peut revenir sur la passion qui était peut-être perdue. Parfois aussi, dans certains couples, l'infidélité entraîne une forme de passion. Ça, c'est assez surprenant, parce que dans un couple où l'autre n'était plus sexualisé, voir qu'en fait elle plaît ou il plaît à d'autres personnes, ou qu'elle a des rapports avec d'autres personnes, ou qu'elle a eu un rapport sexuel avec une autre personne, vient finalement réactiver cette sexualité, c'est le fait que son ou sa partenaire soit sexuel, sexualisé.
Et pourquoi finalement l'infidélité, elle arrive même dans des couples qui sont heureux où tout va bien?
Alors là, c'est l'un des points les plus surprenants. Selon les travaux d'Esther Perel, beaucoup de personnes infidèles disent encore aimer leur partenaire. Donc l'infidélité n'est pas toujours liée à un manque d'amour, à un manque de sexualité, ni même à un conflit. Dans certains cas, elle est liée à des besoins personnels. C'est vraiment par rapport à soi-même, c'est pas par rapport à l'autre. C'est le fait de se sentir désiré, retrouver une excitation, sortir de la routine, se sentir vivant. Il y a même certaines personnes qui disent « je ne cherchais pas en fait une autre personne, je cherchais une autre version de moi-même. J'étais un peu devenu ce papa gâteau, etc., un peu sans érotisme, etc. Et finalement, ce dont j'avais envie, c'est de retrouver une autre personne, une version de moi qui n'existait plus ou qui était morte. Donc parfois, c'est aussi à ça que répond l'infidélité.
il y a aussi une tension entre la sécurité et le désir.
Oui, tout à fait. Ça, on voit vraiment que dans le couple moderne, on doit répondre à deux besoins très différents. Il y a la sécurité, effectivement, d'un côté, et de l'autre côté, il y a le désir. Et la sécurité, ben, c'est tout ce qui est stabilité, confiance, prévisibilité. Et désir, justement, c'est l'inverse. C'est tout ce qui est nouveauté, mystère, excitation. Ça me fait un peu penser à comme la flamme d'une bougie. Tu vois, la flamme d'une bougie, elle a besoin pour exister d'un peu d'air, parce que si tu la prives d'air, ben elle s'éteint. Et s'il y a trop d'air, ben elle s'éteint aussi.
Ouais.
Donc c'est finalement trouver ce juste milieu de ce besoin d'air, ce besoin de liberté, finalement. Je pense vraiment qu'il faut, par rapport à ça, faut être vigilant dans un couple, surtout dans un couple de longue durée, de permettre quand même peut-être à l'autre, à soi aussi, de peut-être un peu, de temps en temps, avoir cet air de liberté. Et ces deux forces, sécurité et désir, peuvent entrer en tension parfois. La routine du quotidien peut parfois diminuer la passion et certaines personnes cherchent ailleurs l'intensité qu'elles ont perdue dans leur relation actuelle.
L'infidélité, ça crée de la jalousie, ça crée de la rivalité. C'est quand même pas des choses très positives, la rivalité et la jalousie.
Ouais, c'est vrai que le couple repose sur un sentiment d'exclusivité. En tout cas, dans notre société, chaque partenaire se veut unique et irremplaçable. Et quand une tierce personne apparaît, cette exclusivité, finalement, elle est menacée. Et il y a cette jalousie qui apparaît alors comme une réaction à cette menace. Donc un peu cette rivalité, cette jalousie, c'est pourquoi l'infidélité est souvent vécue comme une atteinte profonde à la relation et une atteinte profonde à son ego aussi.
Mais ça a des impacts sur la longueur, je suppose. Il y a la question du pardon et ce genre de choses qui va se poser à un moment donné quand on apprend l'infidélité, parce qu'il y a certainement un grand nombre d'infidélités qui resteront secrètes pendant encore très 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 longtemps. Mais c'est important de pardonner. Est-ce qu'on peut se reconstruire après ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on apprend que notre moitié était infidèle?
Alors la découverte d'une infidélité, très souvent quand même, faut se l'avouer, provoque un choc psychologique très fort.
Ouais.
Parce que plusieurs piliers de la relation s'effondrent finalement. La confiance, la sécurité, le sentiment d'être spécial, d'être unique pour l'autre, tout ça s'effondre un peu ou totalement. Et la personne trahie peut se sentir en colère, confusion, perte de repères. Ça peut parfois lui rappeler certaines formes de violence qu'elle a pu subir elle-même dans son adolescence ou dans son enfance, ou des abandons que la personne a pu peut-être vivre. C'est pour ça que l'infidélité est souvent vécue comme un traumatisme relationnel. Alors, est-ce qu'on peut se construire? C'était un peu ça ta question. Certains couples réussissent à se reconstruire. La crise peut parfois devenir un moment de remise en question. Parler de ses frustrations, redéfinir les attentes, redéfinir les limites, reconstruire la confiance. Alors évidemment, ça demande du temps, ça demande de l'honnêteté et ça demande souvent un accompagnement thérapeutique. Alors là, je prêche un peu pour ma chapelle, mais vraiment, on a vraiment
besoin. C'est important d'être accompagné.
Vraiment, on a besoin d'une tierce personne. Parce que là, en général, on a son nez dedans et donc on est complètement perdu, on n'a pas assez de recul. Et je suis vraiment une tierce personne compétente et formée. Ça aide vraiment à prendre plus conscience et à éventuellement pardonner.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois qu'on pardonne pour plein de raisons, par exemple parce qu'il y a des enfants, qu'on se dit qu'on va pas détruire le couple pour une petite erreur, je mets ça entre gros guillemets, parce que la situation fait qu'on s'aime toujours, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pardonnent sans vraiment pardonner. Par exemple, imaginons, alors là je vais aller dans le cliché, c'est monsieur qui a trompé madame. Dès que monsieur va aller discuter ou peut-être avoir un échange un peu sympathique avec, je pense, une caissière, quelqu'un qui travaille dans un restaurant, etc., ça va peut-être réveiller des doutes, des mauvais souvenirs chez madame qui pourtant avait tout pardonné. Des fois, j'ai l'impression que c'est assez compliqué vraiment de pardonner et de passer à autre chose. Oui, qu'est-ce que je veux dire?
Tout à fait. Ben, c'est le principe du trauma. Hein. Quand on est effectivement traumatisé, on a besoin de temps pour pouvoir se reconstruire. Effectivement, ce genre d'attitude peut venir réactiver quelque part cette douleur. En revanche, je voulais revenir sur cette idée de pardon, et tu parlais des enfants, etc. C'est vrai que parfois, on entend parfois nos amis nous conseiller « Ouais, il t'a trompé, quitte-le. » Voilà, c'est un connard, je sais pas si je peux dire ce mot-là à la radio.
Y a pas de souci.
Voilà. Mais parfois, en fait, la réalité montre que même si on n'a pas envie de pardonner, en tout cas tout de suite, on peut pas quitter la personne parce que si je la quitte, je suis dans une situation précaire. Si je la quitte, effectivement, je mets quelque part mes enfants à mal. Je pense vraiment qu'il y a un peu ce tempérament en Occident de on quitte facilement quand quelqu'un nous a trahi. Je pense vraiment que c'est quelque chose à réenvisager. Surtout quand on a une relation durable, quand on a eu des projets, quand on a construit quelque chose, quand il y a des enfants. Je pense vraiment qu'il est opportun d'essayer quelque part de voir qu'est-ce que cette infidélité est venue amener au couple, comment cette infidélité est venue quelque part redéfinir de nouvelles limites ou définir des limites qui n'étaient peut-être pas claires. Mais je trouve que quitter comme ça facilement, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Je crois vraiment que c'est quelque chose à envisager de réinvestir la relation peut-être autrement. Je pense notamment à un couple où il y a eu cette infidélité-là. C'est un couple de femmes, il y a eu une infidélité. Et elles ont décidé, toutes les deux, d'ouvrir le couple.
Ok, ouais.
Donc, elles sont venues
en fait. C'est vrai que tout ce qui est couple ouvert, etc., j'ai l'impression que ça fait souvent suite à de l'infidélité et ce genre de choses. On s'est questionné de pourquoi cette infidélité a eu lieu. Et on se met d'accord que le couple ouvert, c'est peut-être la solution, finalement.
Alors, en fait, moi, je pars toujours du principe que ouvrir le couple, c'est quand le couple va bien. Il faut surtout pas l'ouvrir quand le couple ne va pas bien.
Okay.
Parce que ça va au contraire peut-être éloigner le couple. Donc, ça va faire, entre guillemets, pire que mieux. Donc, non, je pense plutôt qu'il faut ouvrir le couple quand le couple est OK. Mais là, celle qui était venue en thérapie, et au bout de quelques séances, clairement, le couple avait l'air de mieux se porter. Et c'est celle qui a trompé.
Ouais.
Qui a voulu ouvrir le couple pour que l'autre puisse explorer sa sexualité ailleurs. Et donc, en thérapie, on s'est finalement rendu compte que... il faudrait que je leur donne des prénoms pour que ce soit plus simple, mais celle qui avait trompé et qui avait choisi d'ouvrir le couple, mais finalement ne consomme pas en dehors du couple, elle reste entre guillemets fidèle à sa partenaire, mais elle dit aussi je n'ai plus cette pression de devoir avoir de la sexualité avec ma femme, quoi.
Ouais, ouais.
Ça enlève cette pression là. Maintenant je sais qu'elle peut aller entre guillemets voir ailleurs, qu'elle peut explorer une sexualité ailleurs, et moi ça m'enlève la pression de faut que j'assume le devoir entre guillemets conjugal, même si j'aime pas du tout cette expression là, mais il faudra que j'assume le devoir conjugal. C'est ça que ça a permis dans le couple de l'ouvrir finalement, mais c'est pas forcément non plus la solution. Je crois aussi qu'il faut accepter que quand on vit longtemps avec quelqu'un, il y a forcément un moment, un flirt, un like, un sourire, une drague, etc. Je pense vraiment qu'il faut essayer d'être peut-être un peu plus souple avec les frontières de la fidélité, parce que faut pas se leurrer. Si je suis 20 ans avec quelqu'un, il y a forcément eu une de mes collègues avec qui j'ai été boire un verre et où il y a eu un petit flirt, ou quelqu'un que j'ai vu sur Instagram qui m'a plu, avec qui j'ai échangé. Donc peut-être là, il faut... C'est bien aussi quelque part de se dire, est-ce que je peux pas être un peu plus tolérant par rapport à la fidélité de ma partenaire, et qu'est-ce que je mets derrière finalement le mot fidélité.
Avant de se quitter, comment on pourrait finalement conclure toutes ces discussions donc sur l'infidélité, et surtout l'infidélité dans les couples dits, on va dire, entre guillemets, heureux.
Mm-hmm. Je dirais que l'infidélité est l'une des expériences les plus douloureuses dans le couple, ça c'est sûr, mais elle nous rappelle aussi que l'amour est un équilibre fragile entre passion, intimité et engagement, et que ces dimensions doivent être entretenues pour que la relation reste vivante.
Eh ben merci beaucoup Lirim, c'était super intéressant en tout cas, et puis on se retrouve très très vite.
Avec grand plaisir, à bientôt.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.